Vous écoutez RTL. 7h-9h30, RTL Matin.
Avec Jérôme Chapuis.
Votre invité ce matin, Elisabeth Martichoux, est le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy.
Bonjour François de Rugy.
Bonjour.
C'est vous, effectivement, président de l'Assemblée, qui accueillera le chef de l'État à Versailles tout à l'heure. Où seront réunis députés et sénateurs. Emmanuel Macron, en hyper-président devant le Congrès, il n'en fait pas trop.
Emmanuel Macron fait ce qu'il a dit. Il avait dit avant l'élection présidentielle, pendant la campagne, qu'il souhaiterait s'exprimer une fois par an devant les parlementaires réunis en congrès. Et moi, je trouve que c'est un bel hommage aux parlementaires de dire que le premier grand discours aux Français, puisque depuis qu'il a été élu président de la République, il n'a pas fait de discours de ce type, le premier grand discours aux Français, il le fait devant les parlementaires. Et en fait, à travers les parlementaires, il s'adresse aux Français.
Oui, mais justement, il est boycotté par une partie de l'opposition. Ça affaiblit son autorité, non ?
Je crois qu'il y a le groupe de M. Mélenchon et le groupe des communistes. Bon, qui sont, sans vouloir évidemment réduire leur qualité, parce que la qualité ne vient pas forcément de la quantité, mais enfin, ça fait quelques dizaines de députés et de sénateurs, au grand maximum, qui ne seront pas là.
C'est l'incarnation de l'opposition d'une assemblée que vous présidez.
Non, vous savez comme moi qu'il y a des oppositions. C'est une particularité, d'ailleurs, de l'Assemblée nationale qui a été élue il y a quelques semaines, c'est qu'il n'y a plus une majorité et une opposition, il y a une majorité et des oppositions, et dans ces oppositions au pluriel, divisées, un peu éclaté. Il y a une partie qui a décidé de boycotter.
Mais pour du beurre, quoi.
Non, pas du tout. Mais le principal groupe d'opposition, qui est celui des Républicains, de M. Jacob ou de M. Retailleau au Sénat, sera présent. Et les présidents des groupes de ces oppositions s'exprimant après le président de la République.
Mais même Jean-Christophe Lagarde, qui siège avec les constructifs de droite favorables à la majorité, n'ira pas à Versailles. C'est bien que la logique du président n'est pas tout à fait comprise, tout de même.
Non, mais qu'il y ait des opposants qui s'opposent, ce n'est pas une très grande surprise.
C'est une posture ?
Je crois qu'il serait bien que les uns et les autres se disent que la campagne électorale est finie. Et que maintenant, nous sommes dans le fonctionnement normal des institutions, d'un mandat qui va durer 5 ans pour le président de la République, 5 ans pour les députés, et que dans ce mandat, que le président de la République s'exprime une fois par an, c'est son intention devant le Congrès, c'est quelque chose là de très normal et plutôt de sain dans nos institutions.
Mais est-ce que vous auriez jusqu'à dire, François de Rugy, qu'il y a un manquement au devoir démocratique que de boycotter comme ça le discours du Congrès, le premier du président ?
Non, moi je regrette qu'il y ait ces polémiques, je ne vais pas en faire à mon tour. Non, chacun est libre de son attitude. Vous savez très bien que cette procédure de l'expression du président de la République devant le Congrès, finalement en France, elle n'est pas encore vraiment rentrée dans les mœurs, puisqu'il n'y en a eu que deux. Une fois Nicolas Sarkozy l'a fait dans son mandat, une fois François Hollande l'a fait.
Mais justement, vous,
et Emmanuel Macron veut le faire tous les ans.
Vous approuvez par conviction, franchement, ou par, ou par discipline. Imaginez une seconde, je sais que c'est compliqué, mais qu'un ténor de droite ayant été élu président convoque Versailles la veille du premier discours de son Premier ministre.
Vous auriez pas crié. J'y serais allé si j'avais été député.
Vous n'auriez pas crié à l'hyper-président.
Pas du tout, parce que je vais vous dire, vous savez ce qui se passait autrefois ? Quand c'était François Mitterrand, ou Jacques Chirac, ou Valéry Giscard d'Estaing, ils envoyaient un message que le président de l'Assemblée nationale que je suis aurait été obligé de lire à la tribune de l'Assemblée avant que le Premier ministre s'exprime. Ce qui n'était quand même pas très clair. Moi, je préfère que les choses soient claires, qu'elles soient franches. Et Emmanuel Macron, je crois que c'est une de ses principales qualités, c'est de faire les choses franchement, sans hypocrisie. Il s'exprime directement. Et encore une fois, le premier discours important qu'il fait depuis qu'il a été élu, c'est devant les parlementaires. Je trouve que c'est un bel hommage au Parlement.
Ok, mais c'est aussi la veille du discours de politique générale de son Premier ministre. Alors, c'est peut-être pas hypocrite, c'est très franc, mais ça éclipse le discours de demain, forcément.
Non, parce que nous sommes dans la hiérarchie institutionnelle de la France.
C'est l'essence de la Ve République.
Personne ne découvre que le président de la République est au sommet de l'État en France et qu'il a nommé le Premier ministre, il a nommé le gouvernement. Et par ailleurs, chacun est dans son rôle. Et ça, je crois que c'est très important parce qu'Emmanuel Macron tient aussi à ce qu'il n'y ait pas de confusion des rôles. Chacun est dans son rôle. Le président de la République, il va fixer le cap, les grandes orientations du quinquennat, et une fois par an, il fera le point de la même façon devant le Congrès comme il va le faire cet après-midi. Et puis ensuite, il y a le Premier ministre qui, lui, va donner la feuille de route des moyens que l'on met en œuvre. On discutait juste avant des moyens de politique économique, de politique fiscale, de politique budgétaire. Ça, c'est vraiment le rôle du gouvernement, du Premier ministre. Et puis, le Parlement, l'Assemblée nationale que je préside, elle va débattre avant de décider. Et chacun sera dans son rôle.
Il va effectivement fixer le cap, enfin en tout cas, on s'y attend, des réformes économiques. Sur le plan institutionnel, est-ce que vous le souhaitez qu'il confirme la proportionnelle et la réduction du nombre de parlementaires ?
Je crois que ça fait partie des grandes orientations qu'il faut fixer tout de suite et dire tout de suite, notamment, quelles sont les échéances. Et je crois que le président de la République a l'intention de le faire cet après-midi, de donner une méthode et de redire quels sont ses engagements.
Un calendrier ?
Peut-être un calendrier. Quels sont ses engagements sur les réformes démocratiques ? Parce que la France a besoin, en plus de réformes économiques, de réformes sociales, de réformes démocratique. Et je suis convaincu pour ma part qu'il faut le faire dès le début du mandat. Quand on a une forte légitimité après l'élection présidentielle, en conformité avec les engagements que le président de la République a pris, notamment, vous le savez, ça concerne directement l'Assemblée, réduction du nombre de députés, réduction du nombre de mandats dans le temps à 3, et aussi introduction d'une dose de proportionnelle.
Quelle dose ? Est-ce qu'il doit d'ailleurs la fixer ou est-ce que ce sera un élément du débat ? Pour vous, quelle dose est souhaitable ?
Je ne crois pas qu'il va la fixer, mais c'est surtout qu'il faut donner la méthode pour y arriver. Moi, en tant que président de l'Assemblée nationale, je souhaite d'ailleurs que sur ces sujets, on puisse non pas avoir le consensus, vous savez très bien qu'on ne l'aura jamais en France, mais il y a toujours des controverses surtout, mais une majorité peut-être plus large que la majorité issue des urnes, parce que je crois qu'il y a d'autres courants politiques qui souhaitent qu'il y ait cette démocratisation de nos institutions.
Vous êtes issu du mouvement écologiste qui est favorable à la proportionnelle de très longue date. Pour vous, personnellement, quelle dose serait effectivement pertinente aujourd'hui pour réformer l'Assemblée de proportionnelle ?
Nous aurons sans doute une méthode de travail qui permettra de faire des propositions. Moi, vous savez, on veut réduire le nombre de députés de 30%. Ça veut dire qu'on arrivera à 400 et quelques députés au lieu de 577, ce qui est un changement majeur. Eh bien, si sur les 400 députés, vous avez par exemple une centaine de députés élus à la proportionnelle, je trouve que ce serait un progrès très important dans l'expression de la diversité politique. Mais je veux souligner, je suis bien placé pour le savoir en tant que président de l'Assemblée nationale, qu'il y a aujourd'hui une diversité politique à l'Assemblée. Il n'y a jamais eu autant de diversité. 7 groupes à l'Assemblée nationale.
Eh bien justement, parlons-en, parce qu'il y a eu une laborieuse répartition des postes la semaine dernière à l'Assemblée. Le nouveau monde
ça fait partie de l'installation de l'Assemblée.
Mais le nouveau monde a commencé, commencé par des manœuvres d'arrière-cour politicienne. C'est ça la moralisation en marche ?
Non, il y a eu, vous le savez, il y a des tiraillements entre deux groupes, le groupe Les Républicains et le groupe Constructif, dont un certain nombre de membres sont issus des Républicains.
Avec le groupe La République En Marche qui était derrière et qui tirait des ficelles, non ?
Non, qui s'est retrouvé un peu en arbitre malgré lui. Moi, je souhaite que l'opposition soit respectée dans ses droits. Je l'ai dit dans les réunions que nous avons eues à l'Assemblée nationale.
Mais il n'y a pas un membre de l'opposition dans ce qu'on appelle le bureau de l'Assemblée, c'est-à-dire un certain nombre de postes très importants.
On ne va pas rentrer dans les détails pour nos auditeurs de tous les postes, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 3 postes de vice-président de l'Assemblée nationale pour l'opposition sur 6, c'est-à-dire la moitié des postes de vice-président, c'est-à-dire les personnes qui me suppléent lorsque ce n'est pas moi qui préside directement la séance.
De vice-président de l'opposition, a dit Christian Jacob.
Oui, mais le groupe La République En Marche a dit qu'à tout moment, les 3 postes pourraient être occupés par des députés du groupe Les Républicains, et ce serait bien qu'il en soit ainsi.
À tout moment,
moi, je souhaite. Mais parce qu'il y a eu un boycott, il y a eu une forme de bouderie du groupe Les Républicains. Et donc, ils ont décidé de se retirer, de faire la politique de la chaise vide. Je le regrette parce que moi, je suis très soucieux qu'il y ait cet équilibre entre les différents groupes, y compris de l'opposition.
C'est pas en contradiction quand même avec la conception de la première mission du Parlement, telle que l'avait d'ailleurs lui-même formulée Emmanuel Macron pendant sa campagne. Je vous cite. Il souhaitait que soit contrôlé le gouvernement à travers des commissions, des enquêtes parlementaires pour rééquilibrer le rapport de force pour que le Parlement ne soit pas seulement le lieu où la majorité valide les décisions, mais avec une majorité écrasante. Et avec tous les leviers de pouvoir dans les mains de La République En Marche, ça n'en prend pas le chemin.
Alors d'abord, tous les leviers de pouvoir, vous allez vite, parce que vous avez remarqué qu'au Sénat, il n'y a pas la même majorité, que dans les collectivités locales,
alors,
il n'y a pas
la
même majorité, etc. Et qu'il y a des contre-pouvoirs dans notre pays, les contre-pouvoirs médiatiques, mais aussi le Conseil constitutionnel, etc. Pour ce qui concerne la majorité à l'Assemblée nationale, certes, elle est nette, mais elle n'est pas non plus... l'opposition, encore une fois, existe. Je vous le disais, 7 groupes, dont 5 d'opposition, qui ont chacun des droits, qui ont chacun des possibilités de créer des commissions d'enquête parlementaire, et moi je souhaite qu'ils aient davantage de pouvoir. Ça fait partie de la démocratisation, de la modernisation de l'Assemblée que je souhaite enclencher dès le début du mandat.
Vous ne voyez pas de contradiction entre la façon dont ça s'est organisé la semaine dernière, la majorité écrasante et le vœu du président.
Il faut réguler, trouver un nouveau rythme de croisière, c'est évident, mais pour la majorité comme pour les oppositions. Parce que vous savez, le règlement de l'Assemblée a été fait à une époque où, en général, il y avait 2 groupes de la majorité, 2 groupes de l'opposition. Il y a toujours 2 groupes de la majorité, mais il y a 5 groupes d'opposition.
Alors, très vite, est-ce que vous demandez à auditionner tous les ministres à l'Assemblée ?
Ah, moi, je souhaite que les commissions, évidemment, jouent leur rôle et auditionnent les ministres les uns après les autres. Mais ce sont les présidents et les présidentes de commission qui en prendront l'initiative.
Emmanuel Macron avait souhaité pendant la campagne, il faut que, par exemple, les ministres soient très vite tous auditionnés par l'Assemblée.
C'est très bien, ça a d'ailleurs souvent été fait.
C'est une bonne idée que vous allez reprendre, alors. Un petit mot sur les réformes de l'Assemblée. Vous voulez faire revenir un certain nombre de régimes dans le droit commun.
Oui.
Les retraites, le chômage, l'assurance chômage, les frais de mandat aussi. Un tout petit mot, il y a une polémique, enfin en tout cas une discussion sur le niveau de salaire, l'indemnité des parlementaires. François Ruffin dit qu'il veut être payé au SMIC. Jean-Christophe Lagarde, lui, dit non. On travaille 7 jours sur 7, 24-24, 7189...
24 heures sur 24, il ne faut pas exagérer tout de même.
Vous situez où dans ce débat?
Je crois que l'indemnité parlementaire, aujourd'hui, elle est tout à fait correcte, que le statut des députés est tout à fait correct. Ce qu'il faut, c'est revenir dans le droit commun sur un certain nombre de sujets, comme vous l'avez rappelé, sur les retraites des députés. Parce que si on veut conduire une réforme, et nous voulons le faire avec la majorité de convergence de tous les systèmes de retraite vers le régime général, eh bien, il faut que l'Assemblée montre l'exemple.
Et pas sur l'indemnité, donc.
Et sur l'indemnité, je crois
c'est un peu de la démagogie en un mot.
Oui,
c'est un peu de la démagogie.
D'une certaine façon, oui, surtout que M. Ruffin a peut-être d'autres sources de revenus. Or, moi, je suis pour limiter les autres sources de revenus des parlementaires pour qu'ils exercent leur mandat pleinement avec l'indemnité parlementaire qui est faite pour cela.
C'est dit. Merci François Drugy d'avoir été ce matin dans le studio d'RTL.
Merci à tous les deux. Entretien à retrouver sur le site rtl.fr. Emmanuel Macron fait ce qu'il dit, s'exprimer une fois par an devant le Congrès, nous a dit François Drugy. Autrement dit, si j'ai bien entendu, il reviendra l'année prochaine.